Bonjour, aujourd'hui voici la dernière de nos rediffusions de l'été, une émission du 22 novembre 2014 qui est intitulée « Découper la France, les rebonds d'un long débat ».
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Le comité présente 80 divisions nouvelles parce que l'étendue de 324 lieues carrées, dont chaque division est composée, paraît la plus avantageuse. Elle donne lieu d'ailleurs à de bonnes subdivisions intérieures, puisque chacune fournit 9 districts de communes qui se fractionnent encore chacun en 9 cantons.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Entre détermination et improvisation, s'engage actuellement un nouveau découpage du territoire national. Autour de cette grande affaire, les débats sont nombreux et ils sont passionnés, sans qu'on s'en étonne, compte tenu de l'importance de l'enjeu. Enjeu majeur quant au fonctionnement de notre démocratie, puisqu'il s'agit notamment de la lisibilité aux yeux des citoyens des décisions prises, et de leur influence sur leur quotidien. Enjeu majeur quant à la vie économique, dès lors que les collectivités territoriales sont vouées à peser sur les entreprises, tant par leur soutien que par les freins qu'elles pourraient leur imposer. Enjeu majeur également quant à l'équilibre de la politique sociale décentralisée dans une France qui connaît des prospérités fort inégales selon les territoires qui la composent. Enjeu majeur enfin quant à la culture, au sens le plus large du terme, et à l'identité des différentes composantes du pays, à l'image civique de soi-même, que peut entretenir chacun de nos concitoyens, chacune de nos concitoyennes. Entre histoire et géographie, nous allons ce matin considérer cette grande question des frontières intérieures dans la longue durée, tant il est vrai que le poids du passé et des choix qui y furent faits est destiné à peser très lourd, quelle que soit la permanence de bien des interrogations. La diversité des politiques et de leurs ressorts dans le temps vaut d'être attentivement considérée. Nous allons le faire avec Hervé Lebras, démographe et historien reconnu, directeur d'études à l'École pratique des hautes études.
Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. J'habitais un coin du Midi au joli temps de mon enfance. Pour moi c'était le paradis, mais j'ai fait le tour de la France. Dans le train qui me transportait au milieu du doux paysage, je penchais mon jeune visage et le cœur joyeux je chantais. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Aujourd'hui c'est le cœur battant que l'on parle de la patrie, mais après la pluie le beau temps guérira ses ailes meurtries. Et bientôt quand nous parcourons les contrées qui déjà renaissent aux mains d'une ardente jeunesse, avec amour, nous chanterons. Oh, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Et comme on se sent fier d'être un de ses enfants.
Hervé Lebras, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
C'était « Ah, que la France est belle », une chanson interprétée par Marcel Bordaz. Les auteurs sont Gabaroche, Simoneau et Belle. Une chanson qui date de 1941. Vous avez d'ailleurs peut-être noté la connotation vichyste. Mais enfin, on a là la diversité d'un pays qui fait sa richesse, mais qui aussi complique la grande question des découpages et des solidarités spécifiques.
Il y a deux choses intéressantes dans cette chanson. D'abord, entre la Garonne et le souriant pays normand, il y avait, je crois, une ligne de démarcation que, parmi les divisions qu'a connu la France, elle aurait pu être évoquée.
Elle n'est pas dans la chanson.
Elle n'est pas dans la chanson. Et puis, il y a surtout cette atmosphère rurale. La terre ne ment pas. C'est-à-dire, dans ce qui est cité de la France et de sa diversité, il n'est pas du tout question des villes, ou pas du tout question, je dirais même, des productions industrielles. C'est l'apologie du ruralisme par le pétinisme dans sa splendeur.
Elle ne ment pas, c'est un mot fameux du maréchal
Absolument.
Pétain lui-même. Alors nous parlerons naturellement de la politique de Vichy dans le domaine des régions, des découpages des régions de France, mais je crois qu'il faut que nous commencions notre conversation en partant du grand moment de la Révolution française, même si ce n'est pas seulement de ce temps-là que datent les réflexions sur le découpage de la France. L'Ancien Régime connaissait un véritable fouillis de frontières et beaucoup de penseurs se sont préoccupés de cela. Déjà Fénelon, Condorcet,
mais même on a des projets qui précèdent la Révolution, comme celui de Hessler, qui déjà cherche à diviser la France en carré, travail par lequel commenceront ensuite les révolutionnaires. Et c'est vrai qu'on avait des frontières qui s'étaient accumulées au cours des années, qui correspondaient chacune à une fonction. Il y avait des frontières de bailliage, il y avait des frontières d'intendance, il y avait des frontières de subdélégation, il y avait des frontières électorales pour élire des députés au tiers état. Aucune ne correspondait aux autres. Chacune avait des règles particulières. Donc, depuis le règne de Louis XV, des tentatives d'harmonisation avaient été faites, mais aucune n'avait abouti.
Chaque sujet du roi pouvait appartenir par conséquent à plusieurs sous-ensembles, flous.
D'autant plus flous que, par exemple, Vauban note qu'on ne sait pas pour certains villages à la frontière du Limousin et de la Marche, donc la future Creuse, si ces villages appartiennent à l'une ou l'autre des provinces ou des intendances.
À peine responsable des destinées du pays, les constituants vont se préoccuper de ce redécoupage plus rationnel de la France, encore que dès que l'on a dit rationnel, on pose un problème.
Je dirais ils seront rationalistes plutôt peut-être que rationnels, et surtout ils seront dans ce grand élan d'unification révolutionnaire qui va voir l'apparition du système métrique, qui vous le savez va même aller jusque à remplacement de la semaine de 7 jours par des décades, c'est le triomphe du système métrique, et ils vont donc projeter de diviser la France selon une matrice carrée de 80 carrés d'égale superficie, je crois que c'est 18 lieues sur 18 lieues, donc 364 lieues carrées, c'est à peu près 7000 km². Et c'est avec enthousiasme que Touret va présenter ce projet, que Sieyès va l'appuyer, et c'est Mirabeau qui va s'y opposer. Mirabeau va dire non seulement que c'est gênant si la ligne de démarcation entre deux carrés passe entre, grosso modo, la salle à manger et la chambre à coucher, mais c'est encore plus désagréable si ça sépare des gens qui ont les mêmes usages, comme on disait.
Et puis, Mirabeau voulait introduire un critère démographique.
Je parle
aux démographes et les adversaires ont dit « mais si la démographie évolue, on ne fera pas évoluer les frontières ».
On ne prononçait pas le mot démographie, c'était la population à l'époque. Et effectivement, mais ce qui est intéressant dans cette controverse, c'est que les uns ont écouté les autres. C'est-à-dire que les partisans des carrés ont commencé à remodeler les côtés de ces carrés de façon à s'adapter à d'anciennes frontières. Et les partisans des usages, les partisans de la question démographique ont admis qu'on pouvait garder quelque chose qui ressemble à des carrés. Et progressivement, assez vite même, en 6 mois, et avec consultation de beaucoup de délégations locales, on est arrivé à la carte actuelle. Et quand vous la regardez bien, on lit encore la trace des carrés.
Alors nous allons regarder ça de plus près, parce que dans la conjoncture qui est la nôtre, on se préoccupe de redécouper la France, la manière dont ses grands ancêtres s'y sont pris est évidemment peut-être fort éclairante. Mais vous évoquez Touret, personnage majeur, avec Sieyès. Je voudrais que nous écoutions un extrait de son projet. Il est ici lu par Claude Deray sur France Culture le 29 août 1988.
Depuis longtemps, les publicistes et les bons administrateurs désirent une meilleure division territoriale du royaume, parce que toutes celles qui existent sont excessivement inégales et qu'il n'y en a aucune qui soit régulière, raisonnable et commode, soit à l'administrateur, soit à toutes les parties du territoire administré. Il y a d'ailleurs une confusion de division très embarrassante, puisqu'il n'y a pas un seul genre de pouvoir ou d'autorité qui n'en ait une particulière, en sorte que le même lieu pourrait appartenir à autant de districts divers qu'il y a de différentes espèces de pouvoirs publics. Tout le monde sent combien, dans un vaste empire, il importe pour l'uniformité de l'administration, pour la bonne surveillance des administrateurs, pour la facilité des gouvernés, d'avoir des divisions de territoire à peu près égales et d'une étendue calculée sur celle qui convient au meilleur exercice des différents pouvoirs. L'époque la plus convenable pour poser ce fondement d'une foule d'améliorations futures est celle où la puissance nationale, déployant toute son énergie, reconstitue l'État et où la désorganisation de l'ancien gouvernement en fait sentir le pressant besoin en même temps qu'elle a produit l'attente d'un nouvel ordre de choses et a disposé les esprits à le recevoir. Si le moment actuel n'est pas mise à profit, si la nouvelle division territoriale n'est pas liée à la nécessité d'admettre la Constitution dont elle fera partie et dont on ne peut plus se passer, il faut y renoncer pour jamais. Le comité présente 80 divisions nouvelles parce que l'étendue de 324 lieues carrées, dont chaque division est composée, paraît la plus avantageuse. Elle donne lieu d'ailleurs à de bonnes subdivisions intérieures, puisque chacune fournit 9 districts de communes, qui se fractionnent encore chacun en 9 cantons. Distribution heureuse sur laquelle on pourra, avec le temps, établir le mécanisme facile de toutes les parties du régime intérieur de chaque administration.
Alors nous avons là, Hervé Lebras, à la fois l'exposé des motifs et déjà le dessin d'une stratégie, d'un principe de découpage.
L'idée est tout à fait légitime de ce découpage égal, mais ce qui me frappe un petit peu, et qui est un point qui n'a jamais été discuté, c'est une certaine magie des nombres. Pourquoi 80, par exemple? Pourquoi 18 lieux de côté? Et pourquoi aussi 9, 3 multipliés par 3 arrondissements? Je suis assez étonné parce que c'est pas du tout le système métrique, ça devrait être 10 qui devrait régler. Et j'y vois comme une survivance archaïque, vous savez que 9 avec 7, c'est ce qu'on appelle des nombres climactériques, c'est des nombres magiques et qui ont guidé un certain nombre de nos institutions. L'âge de raison à 7 ans, la majorité à 21 ans. Donc je me demande s'il ne subsistait pas chez les révolutionnaires un reste de pensée qui datait au fond de la Renaissance de ce point de vue-là.
Donc le rationalisme se collait à la fois avec un certain esprit magique subsistant et en même temps avec la géographie.
Oui, aussi, bien sûr, parce que alors là, la géographie, au fond, elle va intervenir dans un second temps. C'est, par exemple, des critères vont être établis, il faut qu'on respecte le tracé des fleuves. Il y a notamment une discussion très intéressante avec une délégation qui est, je crois, du Gard, parce que c'est une petite ville du Gard, mais elle commerce avec ce qui deviendra le Vaucluse. Donc elle ne veut pas être mise avec le Gard, et donc ils expliquent, et effectivement, encore maintenant, cette ville de l'autre côté du Rhône fait partie du Vaucluse. Donc il y a eu une attention démocratique, je trouve, dont on pourrait même s'inspirer maintenant dans ces discussions.
De même qu'aujourd'hui, certains départements ont réclamé de quitter la région à laquelle ils appartiennent pour rejoindre une autre région et ont refusé l'idée d'un regroupement bloc à bloc.
Mais ça, c'est, je pense, assez dangereux parce que autant les habitants de la commune dont j'ai parlé faisaient allusion à leurs usages, à, par exemple là où ils faisaient leurs emplettes, où ils allaient au marché. Dans la circonstance actuelle, c'est plutôt au nom de, je dirais presque de lubie du passé, c'est-à-dire d'appartenance très ancienne. Quand vous voyez par exemple le territoire de Belfort, son argument pour ne pas aller avec la Franche-Comté et la Bourgogne, c'est que, et à juste titre d'ailleurs, il appartenait à l'Alsace avant 1870. Avec la Bretagne, c'est encore plus lointain, ou pire si on peut dire, puisque vous savez que la question du 5e département, c'est parce que Anne de Bretagne avait son château en 1510 à Nantes. Donc là, je suis un peu inquiet de ces résurgences du passé qui justement défient l'économie, alors que les révolutionnaires ont été très attentifs aux usages, aux habitudes économiques des habitants de la France.
Alors comment s'est passé l'évolution qui les a conduits de cette idée de découpage géométrique à une sorte d'évidence qu'il fallait tenir compte de la géographie et peut-être de l'histoire? Il y a eu de très nombreux débats, on a énormément consulté. Et finalement, le comité de division qui a été créé voit l'un de ses membres écrire, c'est le pasteur Rabaud-Saint-Étienne, écrire ceci qui me paraît topique. « Toutes les localités furent scrupuleusement étudiées, toutes les convenances consultées, tous les droits rigoureusement pesés, et l'on peut dire avec assurance qu'il n'est pas une petite ville, pas un village, dont on est tâché d'établir les rapports avec ses voisins avec autant d'exactitude que s'il eût été le seul dont on eût dû s'occuper. »
S'il avait vraiment fait cela, ça aurait été une tâche colossale, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait encore plus de villages. À l'époque, on disait de paroisses, qui sont devenues les communes en 1791. Il y avait 43 500 communes en 1791.
Ensuite, contre 38 500.
36 500.
36 500.
Oui. Donc, en 6 mois de temps, je doute que Rabaud-Saint-Étienne ait pu interroger chaque responsable de chacune de ces paroisses ou villages.
Mais c'est cette promptitude qui peut aussi nous intéresser aujourd'hui. Comment ont-ils fait pour aller aussi vite? Et on voit bien dans le propos de Touret, si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons jamais. On voit bien qu'il y a le sentiment que dans l'histoire d'un pays, il y a des moments où la glaise est molle et où on peut la mettre dans de nouvelles formes et qu'après ce sera trop tard.
Oui, c'est aussi parce que très tôt, le 11 août 1789, les États généraux, la Constituante, avaient aboli toutes les frontières. C'est-à-dire, donc là, il y avait vraiment eu un effet de table rase. Donc on pouvait aussi reconstruire sur cette table rase, tandis que dans les réformes plus récentes, dans les réformes suivantes, on a toujours cherché à réformer un échelon en conservant les autres, ce qui en fait est beaucoup plus compliqué. Là, il fallait tout refaire et en plus de cela, l'architecture, les départements étaient la partie centrale de l'architecture. On pouvait ensuite loger à l'intérieur des départements les arrondissements, les futurs cantons et puis finalement les communes, ces anciennes paroisses. Donc je crois qu'ils ont été mis dans des circonstances qui étaient tout à fait favorables. Mais en même temps, dans ces circonstances tout à fait favorables, ils ont à la fois consulté et ils ont été rapidement. Ça a été bouclé en un peu plus de 6 mois, leur travail.
Un travail collectif, on dit toujours que c'est très difficile d'agir collectivement sans avoir un leader qui commence au moins par dessiner une ligne.
On a l'impression que Sieyès a eu un rôle peut-être plus important, mais les archives du comité de la division montrent que des discussions ont été égalitaires et se reflètent dans les résultats. Mais je crois qu'ils avaient aussi conscience qu'ils manipulaient une matière extrêmement dangereuse et que s'ils avaient fait passer la frontière entre deux départements au mauvais endroit, ils auraient eu des troubles dans les années à venir.
On observe aussi que dès ce moment-là, il y a de grands débats, des débats passionnés sur la question de la dimension optimale des différents ensembles qu'on va constituer au cœur de la nation. Je vois que le marquis de Vaudreuil proposait de prendre Paris, qui avait 700 000 habitants à l'époque, comme unité, et de créer, disait-il, 40 provinces faites à la mesure de Paris, de telle sorte que cette ville ait des pairs dans le royaume. Il ajoutait ceci sous forme d'image. Dans tous les pays de la terre, le gouvernement peut être comparé à un loup sans cesse en proie, à une faim dévorante. Si vous voulez le contenir en lui opposant 80 roquets, il les dévore. Mais si au contraire vous lâchez contre lui 30 dogues, il se retire. Je ne sais pas si les dogues, ce sont les régions d'aujourd'hui.
La citation, mais je vois dans ce marquis de Vaudreuil un, je dirais, un lecteur attentif de Boulainvilliers, et la crainte, bien entendu, qu'avaient les grands nobles du pouvoir monarchique, plus que du pouvoir centralisateur.
J'observe en passant que vous êtes arrivé ici à la maison de Radio France par la rue de Boulainvilliers.
Exactement.
Décidément, le géographe en vous rejoint toujours l'historien. Alors, en même temps, il y a eu beaucoup de protestations, un très très grand nombre de protestations dont on a aujourd'hui la trace, et notamment a été remise en cause l'argument de la proximité pour chaque citoyen de la Nouvelle-France par rapport au chef-lieu de district, au chef-lieu de département. On disait qu'il fallait être à 3 heures de cheval du chef-lieu de district pour pouvoir y aller en revenir dans la journée, et à une journée de cheval maximale partout pour le chef-lieu du département. Il y a des protestations, et en voici une qui est assez curieuse. C'est la lettre de protestation d'un habitant de Mures de Barèze, c'est dans le Cantal, le citoyen Lambel. C'est une lecture de Jean-Luc Debattis sur France Culture, le 29 août 1988. Et attendez-vous à trouver une France profonde.
Je prends le compas, et d'après la carte de Monsieur Cassini, je trouve en planimétrie 4,5 lieues du mur de Barès à Aurillac, 21 côtes bien dessinées et 9 rivières ou ruisseaux sans pont. D'après cela, je conclus que dans un pays si raboteux, chaque lieu à vol d'oiseau en vaut et rend au moins 2 pour le voyageur. Qu'ainsi, il y a 9 lieues du mur de Barès à Aurillac. Maintenant, il faut savoir quelle est la nature de ces côtes et de ces rivières pour les franchir tous les ans, au mois de novembre, pour les élections, et dans toutes les saisons, pour suivre les affaires civiles ou d'administration. Qu'on s'imagine un chemin étroit et perpendiculaire, ayant de chaque part un précipice, constamment arrosé par 50 petites sources vives, qui font glisser à chaque pas dans le beau temps et forment un verglas pendant 6 mois de l'an. Qu'on ajoute l'idée d'un tas d'arbres de haute futaie, dont tantôt la cime et bientôt le tronc, couvre le voyageur et le laisse sans espérance de secours à la merci du premier assassin. Voyons ensuite cet homme s'élançant de branche en branche et de tronc en tronc pendant 2 heures entières pour éviter de se précipiter par le coulant du terrain ou de la glace et arriver ainsi, quand il le peut, au pied de la côte. Là se trouve une rivière toujours rapide dont le lit, couvert de rochers amoncelés, n'offre qu'un passage dangereux qui ne peut être suppléé par un pont tremblant de quelques planches qu'un propriétaire a fait placer pour faciliter son exploitation. Supposé vainqueur de tant de périls, le voyageur haletant devrait en espérer le terme, mais à l'instant s'offre devant lui une côte égale en hauteur, qu'on ne peut gravir qu'à pied, parce qu'elle est pavée de larges cailloux qui, présentant une surface plane, n'offrent aucun appui aux chevaux qui glissent et abattent à tout instant. L'hiver et l'été, ce danger est constamment le même. Ainsi, 21 fois, tantôt descendu au sein de la terre et tantôt élevé au-dessus de tout ce qui l'entoure, passant de la sueur à un froid glacial et de l'un à l'autre, le voyageur téméraire arrive après 7 heures des plus pénibles efforts à 1 lieue d'Aurillac.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors on est là, Hervé Lebras, mis face à face avec des résistances et puis des questions de distance subjective, souvent aussi importantes que les distances matérielles concrètes.
Et d'ailleurs, beaucoup de cartes ont été tentées avec ce qu'on appelle des isochrones, être à telle distance de tous les endroits à même distance, de Paris ou bien d'une grande ville, ou bien avec ce qu'on appelle des anamorphoses, faire des cartes où il y a le même nombre d'habitants par zone géographique. Mais ça ne marche pas parce que justement, du fait de leur régularité, les départements se sont absolument installé dans l'imaginaire des Français. Au fond, apprendre la France jusqu'à une époque, peut-être jusqu'à maintenant, c'est apprendre d'abord les frontières départementales. C'est une sorte de grille à travers laquelle on lit la position des villes, on lit même mieux peut-être que les fleuves, on lit les montagnes, on lit à peu près toute la France.
Alors on voit très bien ça dans le bel atlas des inégalités, Hervé Lebras, que vous venez de publier chez Autrement, mais c'est assez clair aussi dans vos autres ouvrages majeurs que je saisis cette occasion pour les citer, le mystère français, l'invention de la France avec Emmanuel Todd, ouvrages qui ont marqué ces dernières années.
Oui, on voit bien dans les cartes qu'on publie dans ces ouvrages, Si on prend un critère, par exemple, le revenu moyen par habitant, ou si on prend un critère, la proportion de personnes qui ont le bac, ou bien la proportion de cadres, on voit s'inscrire sur la carte de France, quand on fait la carte au niveau des communes, on voit s'inscrire les préfectures et les communes qui les entourent. Et puis plus on s'éloigne des préfectures, plus le revenu baisse, plus la proportion de cadres diminue, plus la proportion de personnes qui ont une éducation importante diminue. Donc en quelque sorte, les départements, une fois créés et malgré leur caractère assez fictif au début, ont modelé et fabriqué l'espace autour d'eux. Et actuellement, je crois qu'ils sont au fond la meilleure division de la France si on veut une mixité sociale, parce qu'ils combinent à la fois le centre organisé, décideur, qu'est la préfecture, cultivé, éduqué, plus riche, et puis les régions les plus pauvres qui sont aux frontières. Et parfois, on voit bien que c'est aux frontières où trois frontières de départements se rencontrent qu'on trouve le plus de problèmes en France. Donc, ils sont absolument installés dans le paysage.
Il est assez fascinant de voir comment quelque chose qui a été largement artificiel s'est progressivement
installé. Mais ça a pris deux siècles. Mais il faut dire aussi qu'au-delà de cette fabrication de l'espace par les préfectures et par les frontières des départements, il y avait une idée très forte qui était au début et qui est justement le contraire de l'idée pétiniste. C'était l'idée qu'il fallait éclairer les campagnes et les développer à partir des villes qui étaient les préfectures. Et d'ailleurs, pendant au fond tout le 19e siècle, essentiellement la bourgeoisie ou la petite noblesse qui était à la tête des conseils généraux pensait que c'était sa fonction principale, le développement de l'agriculture, donc l'animation des campagnes, bien sûr aussi tenir les campagnes en main. Et cet aspect politique a aussi été très politique et économique a aussi été très important dans la manière dont les départements se sont installés dans le paysage administratif français.
Il y a peut-être d'ailleurs d'autres aspects de cette inscription. Marcel Roncaiolo le montre très bien dans le bel article qu'il a consacré au département dans les lieux de mémoire. Il y a l'idée de la mémoire scientifique, je veux dire, les archives qui sont désormais départementales au premier chef, ces sociétés savantes qui prolifèrent.
Les lycées aussi, par exemple, jusqu'à une époque récente, il y avait un lycée par département. Dans les départements beaucoup plus urbains, bien sûr, on a eu quelquefois plusieurs lycées. Mais pour donner le chiffre, je crois qu'encore dans les années 1930, il y avait seulement 120 lycées en France. Donc pas beaucoup plus d'un par département. Et ils étaient, bien entendu, presque toujours au chef-lieu du département, dans la préfecture. Donc l'animation qui était organisée par le département touchait à beaucoup de domaines. Elle subsiste encore actuellement.
Le fisc s'organisait aussi dans un cadre départemental. Oui. Et même la police, puisqu'on rappelle volontiers qu'il a fallu attendre Clémenceau, ministre de l'Intérieur, en 1906-7-8, pour installer ce qu'on a appelé les fameuses brigades du Tigre, qui permettaient à la police d'aller d'un département à l'autre, alors que jusque-là, pour un malandrin, ou pour un brigand, ou pour un bandit, il était souvent assez facile d'échapper à la police en passant tout simplement d'un département à l'autre, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de liens entre les polices. Tout ça va dans le sens de ce que vous nous répétez, c'est-à-dire que le département, en fait, a forgé une réalité économique et sociale, culturelle.
Mais il a aussi, outre ces aspects économiques, ces aspects d'administration, ces aspects de maintien de l'ordre, il a été aussi, ou ses aspects éducatifs, il a été au centre même de la représentation que les élites avaient de la France. Et quand j'avais travaillé sur la statistique générale de la France, c'est-à-dire l'ancêtre de l'INSEE, qui se constitue dans la première moitié du 19e siècle, j'étais frappé que toutes les publications des recensements de l'état civil étaient organisées selon un principe départemental. Et je ne voyais pas en quoi cela aidait à l'administration ou à l'économie. Et je pense que c'était justement dans l'idée d'une représentation qui ne soit pas justement jacobine ou hiérarchique, mais égalitaire. Au fond, les départements étaient égaux comme les Français devaient tendre à être égaux. C'était une peinture de la France et le mot avait été employé d'ailleurs par Lavoisier dans un petit essai d'arithmétique politique un an avant qu'il ait eu le coup coupé, le malheureux, où il avait dit il faut faire une statistique générale de la France de façon à ce que toute la France vienne se peindre comme dans un tableau dans cette statistique. Et c'est cette idée donc de représentation, de tableau, de montrer comment la France est constituée qui a été peut-être plus importante qu'un rôle d'organisation, de planification économique comme on l'a pensé plus tard et comme on le pensera avec les régions.
À propos de chiffres, On ne peut qu'être sensible au fait que le chiffrage des départements est devenu très important, notamment avec le développement de l'automobile sur les routes, avec un lot de stéréotypes et éventuellement d'échanges de propos peu amènes d'un département à l'autre.
On pourrait dire qu'il y a un nationalisme de la plaque d'immatriculation. Et effectivement, quand il a été question d'ôter le numéro du département sur la plaque d'immatriculation, on n'a pas eu affaire à une jacquerie, mais à une révolte sourde. Et je me souviens d'une émission de télévision qui avait abordé le sujet. L'organisateur de l'émission m'a dit que c'était l'émission pour laquelle il avait reçu le plus d'appels téléphoniques et de SMS.
Mais ça va sûrement nous arriver à nouveau aussi, ah,
mais
le bras.
Peut-être, mais on n'est pas pour la suppression. Et je trouve qu'il y a eu là une astuce française, au fond, très habile, c'est de rajouter ce numéro en tout petit sur le côté. Et ça a calmé, effectivement, l'ire populaire.
Donc ce magnifique succès, en somme, des constituants dans leur création des départements a évidemment été complétée par à la période napoléonienne, parce que ça a servi avec la création des préfets, des préfectures, des sous-préfectures, de lieux focal pour l'autorité très centralisée, ce qui n'était pas forcément lié du tout, on le voit bien aujourd'hui, au fait de créer des départements avec leurs frontières telles qu'elles sont. Ça a duré très longtemps. Non sans quelques malices, je vais vous faire entendre un propos de Jacques Chirac en mai 1995. Il vient d'être élu président de la République, et il s'adresse de la sorte au préfet qu'il a rassemblé.
Jacques Chirac continue de sonner la charge contre le chômage. Aujourd'hui, il s'est invité par surprise à la réunion des préfets organisée par Alain Juppé au ministère de l'Intérieur. Et pour motiver ces préfets, Jacques Chirac leur a tenu un discours plutôt musclé. Écoutez.
Je veux que vous soyez, chacun ou chacune dans votre département, les fers de lance de notre bataille pour l'emploi. Et je viens vous dire, sans aucun ménagement, que je suivrai personnellement votre action. Sachez que je serai très attentif aux résultats de chacun d'entre vous. Sachez aussi que votre réussite sur l'emploi, dans votre département, sera le critère absolument essentiel d'appréciation de votre mérite et donc de sa reconnaissance. Cette action doit être pour vous absolument prioritaire. Pour la mener à bien, vous aussi, vous devrez changer de comportement et d'état d'esprit et vous serez jugé sur les résultats.
Qu'on se le dise, Hervé Le Bras.
Ben, c'est un peu le destin de l'égalité parfois, parce que les révolutionnaires avaient eu une formule, c'était diviser pour unir. Donc, on avait une égalité des départements, mais une égalité, c'est un outil formidable pour un tyran, parce qu'il peut dominer tout le monde de la même manière. Et au fond, quelle est la différence entre une tyrannie absolue et une démocratie absolue? C'est que dans la démocratie absolue, les N personnes sont égales, et dans la tyrannie, elles ne sont plus que N-1 d'égales et une qui les domine. Donc, quelque part, au fond, cette division des départements a, sans le vouloir, servi d'instrument au centralisme.
Et on peut dire que sous l'Ancien Régime, ce fouillis, ce désordre que nous évoquions, était aussi, même au temps le plus absolu, une certaine limitation au pouvoir central.
Oui, on l'a, c'est très clair dans le bel ouvrage de Tocqueville.
La fin du XIXe siècle voit des changements de fait du côté de l'économie, du côté des transports. Les distances, au fond, sont raccourcies, notamment grâce aux rails. Et par conséquent, c'est sur ce fond de tableau, et aussi l'électricité, ce fond de tableau que se développe un certain nombre de réflexions, de doctrine sur ce que devrait être à l'avenir un nouveau découpage possible de la France. Et là, il y a vraiment deux courants. Un courant très marqué à droite, qui est un courant empreint évidemment de nostalgie, et au contraire un autre, plutôt à gauche, qui essaye de dessiner un avenir qui soit plus adapté aux effets de la révolution industrielle.
Très clairement, comme on l'a vu au départ, c'est la question de l'agriculture qui domine le fonctionnement des départements et de la modernisation de l'agriculture. Et à partir du Second Empire, c'est-à-dire de l'arrivée de la grande industrie en France, le département n'est plus l'échelle idoine pour traiter ce problème. Donc effectivement, à la fois, les modernistes vont réclamer une structure qui soit à plus large échelle, et au fond, c'est progressivement, on en arrivera à ces régions que nous connaissons actuellement. Et puis, du côté alors des traditionalistes, il va y avoir un appel à, au fond, un passé mythique qui est celui de provinces, qui n'ont jamais réellement existé d'ailleurs dans leur délimitation, dans leurs frontières. Il est remarquable que quand on consulte la carte de Cassini, carte extraordinairement bien faite et intéressante, qui est au 80 millième, qui a marqué, a été très utilisée par les constituants, eh bien, on ne trouve pas, quand on la regarde bien, il n'y a pas de limite entre les soi-disant provinces. Mais, au fond, un peu à la manière dont la gauche se saisira des Gaulois au 19e siècle, eh bien, une partie de la droite va se saisir de l'idée de région, mais aussi, au fond, elle va prendre le département en étau, mais aussi l'idée de pays, donc d'échelle plus fine, où là, on a une homogénéité des mœurs, une homogénéité des coutumes, une homogénéité aussi de la répartition sociale.
On dit plutôt province du côté de la droite ou de l'extrême droite, des Maurrassiens, par exemple,
oui.
Et plutôt région du côté de la gauche, du côté des Républicains.
Mais comme vous l'avez vu dans la chanson de Pétiniste du début, le mot « région » est prononcé, ce qui m'a un peu étonné, parce qu'effectivement, sous l'occupation, c'était le terme de province qui était revenu à la mode.
Il faut évoquer Proudhon dans cette affaire.
Presque tous les penseurs du 19e siècle se sont bien sûr intéressés au découpage de la France. Outre Proudhon, vous avez aussi Le Play, vous avez aussi Auguste Comte. Chacun y a été de sa ritournelle. Mais c'est un classique dans la France. J'ai travaillé pendant quelques années à la DATAR. Et chaque année, la délégation à l'aménagement du territoire proposait un nouveau découpage de la France en 5, en 10, en 8, en 13 régions parfois, comme Le Play l'avait fait. Et je me demande si Le Play a inspiré notre actuel président, puisque c'est 13 régions que nous avons actuellement sur le tapis.
Je ne sais pas si c'est un grand lecteur de Le Play. Il faudra lui demander lors de sa prochaine interview. Il serait d'ailleurs intéressant de superposer, comme dans Le Secret de la Licorne, les trois manuscrits essentiels, superposer les différents projets de dessin des régions sur un siècle pour voir à la fois permanence et réalité. Et puis il y a l'intervention des géographes. À ce moment-là, il y a un très grand géographe qui est Vidal de la Blache. Dans son tableau de la France, géographique de la France, et dans un article tout à fait visionnaire sur les régions françaises, il écrit ceci. On est en 1910, il nous semble qu'il existe en effet entre le département et les phénomènes qu'il prétend circonscrire une disproportion qui va s'accentuant, voilà qui est très moderne, et que les législateurs de la Constituante étaient dans l'absolue impossibilité de prévoir. Si imbus que fussent certains d'entre eux des doctrines déjà propagées par les économistes, ils ne pouvaient détacher leurs yeux de la réalité d'alors, c'est-à-dire d'une France dont la vie économique était régie surtout par les conditions locales. La concurrence était limitée, les écarts de prix souvent énormes de province à province. Tout cela a mis plus d'un siècle à changer. Est-ce que nous sommes plus près de Villa de la Blache ou plus près de Tourret et de Sieyès, Hervé Lebras?
Je trouve qu'on est entre les deux parce que ça dépend le domaine qu'on aborde. Bien sûr, Vidal de la Blache a raison dans le domaine économique, mais je pense que dans le domaine social ou dans le domaine qu'on pourrait appeler le domaine des mœurs, des divisions plus fines sont intéressantes. Alors, est-ce que c'est la division départementale? Je pense que, curieusement, pour cette émission, je serais tenté de dire que région, département, ces questions de frontières intérieures vont ou commencent à perdre de leur importance. On a une montée en puissance qui, au fond, est aussi un retour à l'ancien régime, des pôles, c'est-à-dire des métropoles. Il y a une loi très intéressante qui est passée sur les métropoles le 18 décembre dernier, des villes moyennes.
À l'instigation de François Lamy, qui était à l'époque ministre de l'Amie.
Exactement, et qui a fait un très bon travail aussi au niveau d'un découpage à leur fin des zones sensibles. Mais c'est pour dire que l'idée de frontière, au fond, n'aura pas duré très longtemps. Les frontières apparaissent en tant que telles vraiment à la Révolution pour la France. Comme on l'a vu, elles étaient peu présentes auparavant. Et je pense qu'actuellement, elles tendent à disparaître et que c'est un peu un combat d'arrière-garde que de vouloir modifier des frontières. Ce qu'il faut régler, c'est les articulations entre les métropoles, entre les villes assez importantes qui sont voisines, les villes un peu plus petites qui vont dépendre de ces villes voisines, essayer de voir si justement il n'y a pas dans certains cas des villes qui sont coincées entre deux grandes métropoles. C'est de cette façon-là que se posent actuellement les problèmes et pas en termes de territoire.
Pourtant, il y a encore beaucoup de décisions, forcément, qui sont des décisions politique qui se dessine à l'intérieur de frontières régionales.
Oui, mais elles pourraient très bien être, quand on considère les villes en réseau, elles peuvent très bien être prises à partir d'un réseau, en pensant que vous avez une tête de réseau, puis vous avez un premier échelon, puis des échelons successifs. Il n'y a pas besoin là-dedans de tracer des frontières. Il faudrait tracer pour le dernier échelon, mais on a le cadastre.
Alors je voudrais que nous évoquions maintenant les successifs projets. Il y en a eu beaucoup de découpage des régions. Un projet qui a beaucoup marqué, c'est celui d'un homme intéressant qui était Étienne Clémentel, qui a été ministre du Commerce continuellement pendant la Grande Guerre, qui était un élu de l'Auvergne. Et qui a fait un projet qui a beaucoup fait réfléchir juste après la guerre. On appelait ça les régions Clémentel. Je voudrais que nous y attardions un instant, Hervé Lebras.
Il a compris, et ceci dit sans doute à cause aussi des problèmes qui s'étaient posés à l'industrie de l'armement durant la guerre, il a compris l'importance d'avoir un découpage beaucoup plus large pour pouvoir organiser industriellement, pas simplement les industries en tant que telles, mais les industries d'État.
Son fondement est économique, ça c'est très moderne. Il a l'idée de répartir les 149 chambres de commerce en 16 régions économiques.
Absolument. Mais je crois que là-dedans, il y a eu aussi une prise de conscience au début ou à la fin de la guerre de 14, mais enfin à propos de la guerre de 14, de l'erreur dans laquelle s'était mise la France d'avoir son industrie sur ses frontières nord et est, par où pouvait arriver l'Allemagne. Et c'est à partir, au fond, de la fin de la guerre de 14 qu'on a commencé à relocaliser les industries militaires importantes tout au sud de la France. Si maintenant Airbus est à Toulouse, c'est pas que mystérieusement les Toulousains aient eu un goût pour l'aviation, c'est parce que dans les années 20 et 30, on a délocalisé systématiquement les usines d'aviation pour les mettre loin des Allemands. Même chose pour tout ce qui a été les poudres, les munitions qui ont été mises à Bordeaux.
Et en même temps, Clémentel est intéressant parce qu'il provoque, y compris chez les intellectuels, chez les publicistes, comme on disait à l'époque, beaucoup d'analyses qui peuvent sonner assez modernes. Je suis tombé sur une controverse entre Lucien Febvre et Marc Bloch, qui à l'époque ne savaient pas qu'ils fondraient ensemble la fameuse revue
des Annales.
Des Annales que vous connaissez bien comme directeur d'études en sciences sociales. Dans une histoire de la Franche-Comté, Lucien Febvre, qui est spécialiste de la Renaissance, explique qu'il est indispensable de laisser l'unité franc-comtoise dans la longue durée. Il dit, pour deux motifs, d'abord parce que la Franche-Comté est espagnole, toujours le poids de l'histoire, alors que la Bourgogne est essentiellement française, et d'autre part parce qu'il y a un tempérament franc-comtois qu'il essaie de définir. C'est la mode à l'époque. Des gens sérieux, solides, un peu taiseux, doutant un peu trop d'eux-mêmes, etc., etc. Et Marc Bloch répond, mais pas du tout. D'abord, à l'époque des Valois, les Bourguignons et les Franc-comtois ont été unis sous la même houlette, sous le même pouvoir. Et on peut toujours aller chercher dans le grand magasin de l'histoire des moments différents qui sont partis de l'identité. Et puis d'autre part, ce que vous dites, cher Lucien Febvre, du tempérament franc-comtois, on pourrait l'appliquer à beaucoup d'autres ruralités françaises. Et voilà un débat
qui est toujours actuel, parce que toujours s'oppose aujourd'hui l'idée d'une organisation administrative, économique, cohérente, qui est au fond la position sous-jacente de Marc Bloch, et puis l'idée qu'il faut reconstruire des territoires qui ont une existence immémoriale. Mais cette existence est tout à fait questionnable, parce qu'elle ne préoccupait pas en tout cas les rois, qui simplement ajoutaient ou perdaient une partie de territoire sans se préoccuper que dans cette partie de territoire, on soit assimilé ou qu'on parle le bon français et qu'on ait des mœurs françaises. C'était une pure politique impériale, on peut le dire, et pas du tout une politique culturelle. Donc ces provinces ont été idéalisées, souvent reconstruites après coup. Et la remarque de Marc Bloch est absolument parfaite. Effectivement, il y a des moments où la Franche-Comté a été séparée de la Bourgogne, d'autres moments où elle a été réunie. Mais il y a des moments où la Bourgogne était coupée en deux ou en trois, après Charles Quint. Et puis des moments, je pense, mais je connais moins la Franche-Comté, que vous connaissez mieux que moi.
Vous connaissez mieux la Bretagne.
Un petit peu mieux, oui. C'est la partie occidentale.
On ne peut pas négliger le poids de l'histoire dans l'identité que les groupements humains peuvent éprouver, mais ce n'est jamais impérialiste, si je puis dire.
Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre, ce poids est très important, mais il est souvent extrêmement local. Si vous prenez, on vient de parler de la Bretagne, dire la Bretagne, c'est une abstraction, il y a des Bretagnes. Et quand on relit le très beau tableau politique de la France de l'Ouest d'André Siegfried, on s'aperçoit que souvent, à 50 ou 100 kilomètres de distance, c'est de Bretagne, le pays de Léon, est extraordinairement différent à tout point de vue du Helgoat.
Le moment de Vichy est important. Nous l'évoquions tout à l'heure à propos de la chanson que je vous ai fait entendre au début de notre conversation consacrée à l'histoire des découpages de la France. Vichy est important parce que, peut-être inspiré par la tradition maurassienne, en partie, Vichy souhaite organiser la France en province. Et voilà ce que dit l'amiral Darlan, qui est encore pour quelque temps chef du gouvernement. On est le 19 février 1942, il s'adresse au préfet, longtemps avant le propos de Jacques Chirac à d'autres préfets.
L'organisation administrative se poursuit par la détermination des provinces et de leur statut administratif. Pratiquement, elle est déjà amorcée par l'institution de préfets régionaux, assistée d'intendants des affaires économiques et d'intendants de police. La création corrélative de services régionaux des grandes administrations à caractère économique est soit réalisée, soit en voie de réalisation. L'autorité des préfets régionaux sera progressivement étendue à tous les domaines intéressant la vie des départements qu'ils contrôlent. Leurs attributions seront élargies aux dépens de celles des pouvoirs centraux. Il s'agit d'une réforme profonde des habitudes administratives, enracinée par près d'un siècle et demi de centralisation à outrance. Tous les esprits doivent y tendre. La doctrine actuelle peut se résumer ainsi : centraliser la conception, décentraliser l'exécution, stimuler les initiatives.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On peut dire que cette formule est suffisamment vague, Hervé Lebras, pour pouvoir servir à d'autres moments qu'à Vichy. Mais on a le sentiment néanmoins que cet effort de Vichy pour constituer des régions a un peu plombé l'idée pour un moment, notamment dans l'esprit des constituants de 1946, alors que beaucoup de résistants avaient réfléchi à ces choses et à de nouveaux découpages de façon assez proche de ce qui se passait à Vichy. Je pense par exemple à Michel Debré.
Oui, tout à fait, mais peut-être aussi que dans l'attitude de Vichy, il y avait justement une attitude antidémocratique qui consistait, ou antirépublicaine plutôt, qui consistait à voir dans les départements une institution de la République et donc, quelque part, effacer cette institution de la République. Et du coup, alors que l'idée de région est une idée tout à fait légitime du point de vue économique, ça, on peut le dire, nuit au développement de cette idée régionale une fois Vichy retiré du paysage. Je pense que c'est sans doute cela qui a été le plus dommageable à l'idée de région, c'est l'intrusion de Vichy dans ce domaine.
Il y a 20 régions dans l'esprit de Vichy qui sont dessinées, 20 régions.
Ensuite, d'une certaine manière, les projets qui vont apparaître, qui vont avoir des débuts de concrétisation, y compris les projets gaullistes à partir de 1963, de la création de la DATAR, vont être très proches de la proposition de Vichy, qui est une proposition assez raisonnable, parce que justement, elle tient compte de la présence de métropoles, de capitales de ces régions.
On a souvent oublié que Michel Debré, qui sera ultérieurement très, très centralisateur, qui avait à l'égard du référendum de 69 des sentiments sûrement mitigés. Michel Debré a dessiné, après la Libération, il a proposé dans un petit ouvrage un découpage par région.
On retombe sur, au fond, la question des départements telle qu'elle est passée de l'époque révolutionnaire à l'époque napoléonienne, c'est-à-dire elle est un cadre qui peut à la fois servir une égalité démocratique, mais aussi un centralisme très puissant. Donc, d'une certaine manière, c'est pas du tout incompatible. Le problème qui est posé, qui sera posé en 1969 par le référendum du général de Gaulle, c'est quelles attributions sont abandonnées par l'État central.
Auparavant, en 1954, sont créés des comités régionaux d'expansion qui sont d'initiative privée et qui sont officiellement agréés. 21 régions économiques.
On retombe une fois de plus sur l'aspect, la déficience des départements pour gérer l'économie. On retrouve la question de l'échelle. Les départements sont à trop petite échelle par rapport aux questions économiques qui se posent à la France et à la plupart des pays développés. Donc, l'initiative ressurgit périodiquement. Elle va, au fond, être véritablement réalisée un peu plus tard. Elle ne sera pas réalisée, bien sûr, sous le gaullisme, ni par les successeurs du général de Gaulle, mais par la loi de Fer en 1981, où cette fois-là, des pouvoirs réels seront donnés aux régions.
D'ailleurs, la question du découpage des frontières intérieures, qu'on ne se lasse pas de dessiner toujours de façon nouvelle, se mêle intimement, intrinsèquement à la question du plus ou moins grand degré de décentralisation ou de déconcentration. Il faut distinguer déconcentration, oui. C'est-à-dire les pouvoirs administratifs qui sont sur place plus qu'à Paris, on n'a pas besoin autant de remonter à Paris, et puis la décentralisation.
Oui, ceci dit, la décentralisation reste encore dans la France actuelle très faible, puisqu'elle se heurte quelque part au principe d'égalité. C'est-à-dire une vraie décentralisation permettrait, mettons comme dans le cas des Länder allemands ou des provinces italiennes, permettrait aux instances locales de fixer un certain nombre de règles qui ne seraient pas les mêmes que dans les départements ou que dans les régions voisines. Par exemple, des règles de répartition des aides sociales. Il n'y a absolument pas de raison que dans des régions où le chômage est très important et où il n'y a pas trop de personnes âgées, il y ait la même règle de répartition des indemnités de chômage, des fonds pour la formation permanente et des fonds pour, par exemple, les personnes âgées, l'aide personnelle d'autonomie. Chaque région devrait pouvoir arbitrer entre ces différentes fonctions, mais ça c'est impensable dans la France actuelle. Donc là, vous avez raison de parler de déconcentration, c'est-à-dire que bien sûr, on met les services chargés de répartir les allocations familiales ou bien les allocations pour les chômeurs, mais ces allocations restent fixées par l'État central. Même actuellement dans les conseils généraux, je crois que le chiffre, ils sont maîtres de moins de 20% de leur budget. Le reste du budget est automatiquement affecté par les lois prises à Paris.
En réfléchissant, comme nous le faisons, sur les découpages successifs réalisés ou prévus par les gouvernements successifs, on retrouve finalement la dialectique du jacobinisme et du girondisme, deux courants qui traversent notre histoire, moins antagonistes qu'autrefois, parce que pour ce qui est de l'acceptation de la décentralisation, dès le début du XXe siècle, on voit un homme comme Clémenceau, qui apparaît aux yeux de tous comme vraiment le parangon de la centralisation. Dans son dernier discours à Strasbourg, avant de quitter le pouvoir en 1919, il fait un plaidoyer ardent pour la décentralisation. Mais la limite, effectivement, c'est la question de l'uniformité. Ces courants se rapprochent sans se mêler, et de leur dialogue indéfiniment perpétué naît finalement une incertitude sur la signification et la portée des découpages que l'on fait.
En même temps, grâce à cette décentralisation tout à fait incomplète de la France, une certaine unité de la France subsiste. Et quelquefois, je crains justement qu'en donnant trop de pouvoir à des régions, mais à des régions définies sur des bases culturelles, on amorce des processus d'autonomie et qui peuvent mener à l'indépendance. Il y a quand même un avantage formidable actuellement de notre pays, c'est qu'il n'est pas confronté, comme la Belgique, aux volontés séparatistes.
Pas de
la France,
pas de Catalogne non plus, pas d'Écosse.
Pas de Catalogne, pas de Pays Basque, pas d'Écosse, pas de Padanie, le nord de l'Italie. J'ai vu que la Vénétie voulait retrouver son indépendance.
En revanche, nous avons une capitale. Et de quel poids? Et cela a compté aussi, la définition des frontières à Paris, autour de Paris. Il y a ce grand changement de 1964 avec l'introduction, la division des départements qui entourent la capitale en plusieurs morceaux. 20 ans plus tard, sur FR3, voici un reportage qui évoque ce 20e anniversaire d'une manière qui me paraît assez éclairante.
Les 7 nouveaux départements issus de la Seine et de la Seine-et-Oise fêtent leurs 20 ans. Et ce sont les Hauts-de-Seine qui soufflent aujourd'hui même leurs 20 bougies. C'est le 10 juillet 1964 que les deux anciens départements, créés par la Convention en 1793, ont cédé la place au nouveau département. La Seine-et-Oise et son chef-lieu Versailles, encerclant Paris et la Seine, ne répondaient plus aux nouvelles aspirations des populations. C'est pourquoi on a décentralisé cette zone hyper urbanisée avec 7 unités, Paris-Ville, département à elle seule, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines et Essonne. Il a fallu alors réapprendre ces départements, s'habituer à un nouveau schéma administratif et créer peu à peu une conscience départementale. Le symbole de cette réforme restera pour beaucoup d'habitants le changement de plaque minéralogique, marquant ainsi leur nouvelle appartenance. Et ce nouvel aménagement de la collectivité territoriale a débouché sur une administration plus proche des habitants, de leurs soucis, de leurs besoins. plus nécessaire pour le citoyen de Boissy-Saint-Léger d'aller chercher son permis de conduire à Versailles. Le résident du Raincy n'a plus à traverser tout Paris pour se rendre à la préfecture chercher son passeport. Ces nouvelles circonscriptions, qui ont dépassé le million d'habitants, sauf la Seine-et-Marne, spatialement plus petites que la moyenne française, offrent une physionomie originale qui, depuis 15 siècles, marque le rôle privilégié que joue cet espace dans l'Hexagone.
Hervé Lebras.
Ben, je pense que cet argument est celui du Cantalou Lambel qu'on a entendu au début. On est toujours trop loin de l'endroit où on veut aller. Donc on ne peut fonder aucun découpage sur une question de distance.
En tout cas pas exclusivement. Et en n'en faisant pas
j'ai
une
du
obsession.
Mal parfois à me rendre rive droite étant de la rive gauche.
Vous m'en direz tant. Je voudrais que nous concluions cette conversation sur le découpage de la France, Hervé Lebras, en nous demandant en quoi cette histoire pluriséculaire peut éclairer les débats d'aujourd'hui. Éclairer d'abord leur virulence et d'autre part éventuellement offrir quelques pistes pour des solutions potentielles.
Je crois au contraire qu'il y a une grande leçon là à tirer de l'histoire, c'est que les découpages auxquels on est parvenu ont été faits avec un grand professionnalisme quand on voit et un grand sens politique. On l'a vu pour les départements, on a vu aussi que progressivement, c'est ce qui a dominé pour les régions. Donc on ne peut pas toucher à ces découpages sans avoir, au fond, une grande cause à défendre. Et ce que je regrette dans les propositions de découpage actuelles, c'est qu'il n'y ait justement pas eu d'objectifs qui étaient affichés ou des objectifs qui n'étaient pas raisonnables, peu crédibles. Par exemple, l'objectif de l'économie en termes de finances, il s'avère que cet objectif n'est pas réel du tout, qu'au contraire, pendant les premières années, ça coûtera plus cher.
Au contraire même, oui. En tout cas, ce sera limité.
Et l'objectif de la taille européenne n'a pas de sens. Quand on regarde les lenders allemands, ils s'étagent entre 600 000 habitants et 17 millions pour la Rhénanie-Westphalie. L'objectif d'avoir un dynamisme économique, non, il n'y a aucune relation, aucune corrélation entre dynamisme économique et dimension de la région. Or, les problèmes sont posés en France au niveau justement de la gestion et de l'organisation des régions. Donc je regrette qu'on n'ait pas traité cette affaire avec suffisamment d'objectifs sérieux, alors qu'on avait été capable de le faire tout récemment et on en a peu parlé parce que ça a marché, pour redéfinir les zones urbaines sensibles, les zones d'éducation prioritaire où un magnifique travail a été fait par François Lamy et repris par Najat Vallaud-Belkacem, qui ont été les ministres successifs de la ville, où on a leurs services ont divisé la France en carrés 200 mètres par 200 mètres. On revient à la révolution, à la méthode révolutionnaire. Ils ont calculé dans chaque carré le taux de pauvreté.
Géométrie à nouveau.
Absolument. Mais, et aussi comme pour les révolutionnaires, une fois qu'ils ont défini les carrés de pauvreté, ils ont regardé ce que ça donnait sur une carte aérienne, de façon à ce qu'on ne découpe pas une barre ou un quartier de pavillon. Et donc, ils ont modifié les frontières en fonction des conditions locales du terrain. Et ça y est, les nouvelles zones sont définies. Elles sont définies sur un critère unique. Avant, c'était des critères politiques dont on ne savait pas toujours ce qu'ils contenaient de lobbying. Maintenant, on a un critère unique. On a un zonage qui est absolument bien fondé et bien étudié. Donc, au fond, la République peut très bien travailler. Et j'étais un petit peu chagrin qu'elle n'ait pas effectué un travail de cette qualité pour la fusion des régions qui nous est proposée.
Sachant qu'il y a eu beaucoup de lobbying en 1789, mais que ces lobbying ont dû finalement s'incliner.
Passer devant le comité de la division, donc être mis en grande clarté.
Devant une politique, une absolument. Politique générale. En somme, vous nous dites, Hervé Lebras, Touret et Sieyès, réveillez-vous.
Absolument, mais ils sont déjà un peu réveillés avec la réforme de François Lamy.
Merci beaucoup. Je cite trois de vos ouvrages, il y en aurait d'autres à célébrer. Celui que vous avez publié avec Emmanuel Todd, qui vient d'être réédité, enfin en 2012, L'invention de la France, Atlas anthropologique et politique, paru chez Gallimard. Vous avez publié également en 2013, toujours avec votre complice Emmanuel Todd, Le mystère français au seuil. Et puis, tout récemment, un atlas des inégalités chez Autrement en 2014. Je rends hommage également à un très bon livre de Jean-Marie Miossec, Géohistoire de la régionalisation en France, l'horizon régional, un livre de 2008 aux presses universitaires de France. Je crois que vous l'appréciez.
Oui, c'est un très bon livre.
Je vous rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été diffusée une première fois le 22 novembre 2014. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une nouvelle saison de Concordance des temps avec une émission qui sera consacrée à l'actualité d'Ernest Renan. Et je recevrai Philippe Barret. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Thibaut Germèze et Élise Leu à la prise de son, Romain Couturier à la discothèque, et pour les Archivina, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, nous allons ensemble retrouver Aurélie Luneau.